du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Il est midi une, soyez les bienvenus, nous sommes ravis de vous retrouver avec toute l'équipe de Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Bonjour Androse Jankovic.
Bonjour Gégal Bardi, bonjour à tous.
Comme les auditeurs le constatent, vous n'êtes pas en studio aujourd'hui, mais on va vous retrouver dans un instant avec vos invités.
Et oui, nous allons parler de la santé mentale des jeunes et des jeunes étudiants en particulier. Savez-vous, Gilles, qu'un jeune sur quatre présente des symptômes dépressifs et se disent anxieux? À l'IUT de Tarbes, il y a 3 sessions par an pour former précisément au premier secours en santé mentale. Nous en parlons avec Frédéric Girard dans quelques instants. Elle est responsable du département Techdeco à l'IUT de Tarbes et c'est elle la cheville ouvrière de ces formations, de ces sessions de formation qui sont donc organisées pour veiller à la santé mentale de nos jeunes étudiants.
Voilà, entretien à écouter dans un instant, un entretien important avec donc votre invité. Et dans cette émission également, nous irons du côté de Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne et Lescar et Rolleron. Pour cela, je rejoindrai dans un instant Nathalie Chambon, qui est la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne et Lescar et Rolleron. Mais pour le moment, place à l'actualité avec Kevin Mouveau, qui est étudiant et qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve pour les titres à la une de l'actualité régionale. À tout de suite. Alors, Anne-Rose.
Oui, à tout à l'heure, Gilles.
Anticipez les fortes chaleurs sur les routes Haute-Garonne. Le département lance dès le 4 mai des tests sur 12 pistes cyclables. Objectif, adapter les revêtements pour limiter les îlots de chaleur, alors que les températures pourraient fortement augmenter d'ici 2050. Une friche industrielle transformée en site d'avenir en Ariège. À Saint-Girons, 5200 panneaux photovoltaïques produisent désormais de l'électricité sur l'ancien site du Lédard. Un projet d'envergure capable d'alimenter l'équivalent de 2700 habitants. Un rêve devenu aventure qui prend du retard à Toulouse. Le Drakkar Orca ne traversera pas l'Atlantique en 2026. L'expédition est reportée à 2027. Le temps de finaliser les aménagements, le financement et la préparation de l'équipage. Prendre de la hauteur pour redécouvrir les paysages à Lourdes. Le funiculaire du Pic du Gers rouvre ce 27 mars. Il permet d'accéder en quelques minutes à un panorama exceptionnel sur les Pyrénées et la vallée. Les mathématiques sortent des salles de classe près de Toulouse. Le printemps des mathématiques s'installe à Castanet-Tolosane. Conférences, spectacles et ateliers sont proposés pour rendre la discipline plus accessible. La transhumance reprend la route dans le Lot. En vallée du Célé, 600 brebis quittent leur pâturage d'hiver pour rejoindre le plateau de 1000 vaches, une pratique essentielle pour entretenir les paysages. Enfin, un appel à la solidarité lancé dans les Hautes-Pyrénées. La Banque alimentaire organise sa collecte de printemps. Les dons sont attendus ce week-end dans les grandes surfaces de Tarbes et Lourdes.
Merci Kevin Mouveau. Voilà, je rappelle que vous êtes étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On vous retrouve à 12h30 pour développer ces titres dans le journal complet. Dans un instant, direction Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Rolleron. Je serai en ligne avec Nathalie Chambon, qui est la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescar et Rolleron. Tout ça, c'est à suivre juste après le chanteur Grégoire.
Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, et c'est faire l'insouciance. Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, et bien inoffensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. L'espoir, l'ardeur, prends tout ce qu'il te faut. Mais moi, mon cœur, mes épaules et mon dos. Je veux te voir, des étoiles dans les yeux. Je veux nous voir, insoumis et heureux. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus seul, tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, et c'est faire l'insouciance. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus seul, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls.
Toi plus moi, c'était le chanteur Grégoire qui nous accompagnait à 12h07.
Radio Présence à Montauban 93.3.
Bonjour Nathalie Chambon.
Bonjour Gilles.
Vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. On va détailler une partie de l'agenda béarnais pour les prochains jours. Et on commence avec cette lecture priante qui est proposée à côté de Pau à Morlas. C'est ce soir.
Oui, tout à fait. On vous propose donc une lecture divina du récit de l'évangile de Saint Matthieu. C'est donc un cycle de temps de prière et de réflexion. C'est de 18h à 20h à la maison paroissiale de Morlas ce soir.
On poursuit avec à Pau l'équipe des Cotopaïs qui propose une session à table avec Jésus.
Oui, tout à fait. C'est donc la dernière de cette rencontre à table avec Jésus qui ont eu lieu pendant tout le temps du carême. C'est donc toujours à la bibliothèque de culture religieuse ce soir, entre 20h et 22h, sur le thème « Accueillir ou être accueilli ».
On poursuit avec cette proposition, ce chemin de croix qui est proposé chaque vendredi de carême.
Oui, tout à fait, au sanctuaire de Bétharam, donc un chemin de croix à 15h. Il y a donc ce vendredi et puis bien évidemment aussi la semaine prochaine, je vous en reparlerai pour le vendredi saint.
On part à Annaï avec cette soirée débat qui est proposée par le CCFD sur le thème de l'eau.
Oui, ce même vendredi 27 mars à 20h, donc au centre multiservice qui se trouve au cours Pasteur de Naï, une réflexion sur l'eau avec des témoignages, notamment avec une coopérante de l'association Au Tchad, et puis des témoignages aussi comment mieux utiliser l'eau dans notre plaine de Naï, un temps d'échange, de réflexion de 18h à 20h.
On poursuit avec ce temps de carême par la formation permanente du Béarn à Pau.
Oui, on vous propose donc en ce samedi 28 de prendre ce temps pour relire les textes des Béatitudes. C'est une catéchèse qui s'appuie sur des montages audiovisuels, des textes de la Bible. Il y a des temps d'échange, de prière. C'est une formation qui est animée par Marilyn Sillière et Marie-Lou Thierry qui se trouve donc au centre diocésain du Béarn à Pau.
Ce dimanche, à l'occasion du dimanche des Rameaux, la paroisse de Lescar organise une conférence sur le Saint-Suaire.
Oui, on vous propose de vous retrouver autour d'un pique-nique après la messe des Rameaux pour ensuite assister à cette conférence à 14h30 sur cette relique la plus impressionnante qui va nous permettre de rentrer vraiment dans la passion du Christ. C'est donc à 14h30 au centre paroissial Saint-Joseph à Lescar.
Et puis on ne pouvait pas terminer cet agenda sans évoquer la messe chrismale pour le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Ça sera mardi prochain.
Tout à fait, dans la cathédrale de Lescar à 18h, hein, cette messe chrismale pendant laquelle l'évêque consacre les saintes huiles qui seront utilisées pour les catéchumènes, pour l'onction des malades, mais également le renouvellement des vœux de tous nos prêtres. C'est un vrai moment fort de joie de nous retrouver autour de tous nos prêtres, donc à 18h, mardi 31, à la cathédrale de Lescar.
Voilà, parce que chaque année, la messe chrismale est soit à Lescar, soit au Oloron ou Bayonne.
C'est ça, les trois têtes de notre diocèse.
Exact, ce qui nous amène à parler, pour terminer cet agenda, parler de cette retraite pour la Semaine Sainte, c'est avec la communauté des Béatitudes.
Tout à fait, donc vraiment vivez cette Semaine Sainte avec la communauté des Béatitudes du 1er avril 16h au 5 avril 14h. La communauté vous propose vraiment de vivre cette Semaine Sainte pas à pas avec le Christ, avec des enseignements pour vraiment découvrir le mystère pascal et partager tous les offices de la communauté durant cette Semaine Sainte.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Cette actualité et cet agenda, eh bien, on peut retrouver tout ça sur diocèse64.org. Un grand merci à Nathalie Chambon. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour ce diocèse et on se dit à très vite sur Radio Présence. À bientôt.
À très vite. Merci Gilles. Au revoir.
Présence à la Capelle Marival 97.7.
Il sera question de santé mentale chez les jeunes et en particulier chez les étudiants dans un instant avec Anne-Rose Jankovic et son invité. Puis à 12h30, c'est l'actualité régionale qui sera de retour.
Quand on respire, mamie parle du temps. C'est pas si pire ce grand soleil, ce petit vent. Comme on respire, mamie nous fait la météo. N'a rien à dire mais nous prévient s'il fait trop chaud. Quand on se fâche, mamie surveille et surtout guette. Le cours des nuages, elle aurait pu être thermomètre. Quand ça s'engueule, mamie évite et fuit l'outrage. Débarrasse seule et s'en va plus loin de l'orage. Elle prend pas peur, mamie, elle dit qu'elle comprend pas toutes ces histoires, même si ça anime les repas. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge. Et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison. Loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons. Comme il est tard, mamie souligne, elle a raison. Qu'il fait bien noir et surtout froid pour la saison. Comme c'est marrant, mine de rien, mamie savoure. Tous les instants, mamie, elle connaît bien l'amour. Comme d'habitude, mamie s'y flotte un petit air. Finit sa flûte et se lève comme un courant d'air. Elle est légère, mamie, elle est comme le vent. Serre le dessert, elle fait la pluie et le beau temps. Elle prend pas part, mamie, elle dit que c'est pas pour elle. Mais elle se marre, elle adore quand c'est le bordel. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge. Et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison. Loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge. Et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison.
C'était la voix de Sylvain Dutu avec cette chanson qui s'appelle Mamie. Allez, la suite, c'est avec Anne-Rose Jankovic et son invité.
Radio Présence, place du Capitole, 97.9.
Bonjour Frédéric Girard.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes responsable du département Tech de Co à l'IUT de Tarbes. Vous étiez venu nous voir il y a quelques mois pour nous présenter cette formation et on s'était promis de se revoir pour parler d'un autre sujet, d'un sujet qui est important et que vous portez avec beaucoup d'énergie à l'IUT de Tarbes. C'est la santé mentale des étudiants, puisque vous avez décidé de mettre le paquet, j'allais dire, pour aider les étudiants à aller bien. Alors d'abord, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut parler de la santé mentale des étudiants? Ils vont si mal que ça, nos jeunes étudiants, en France et à Tarbes?
Alors, on aimerait qu'ils aillent bien mieux, effectivement, mais un jeune sur quatre environ, par exemple, présente des symptômes dépressifs. Et on constate que grand nombre, presque la moitié d'entre eux, se disent anxieux. Voilà, donc stressés pour différents motifs, hein, mais ça peut être par les examens, naturellement, ça peut être stressé par la découverte aussi d'une nouvelle vie, la vie étudiante. Quand
parce qu'il faut partir du cocon familial, quitter peut-être sa région d'origine, etc. C'est ça qui les stresse?
Alors, au début, ça les enchante, et puis ils se rendent compte, effectivement, puisque ça concerne environ 75% de nos étudiants, que c'est pas si doré et rose que ça, qu'il faut apprendre à se gérer, à peut-être vivre seul ou en colocation avec des étudiants qui s'entendent plus ou moins bien, faire la
donc
vaisselle...
Donc là, ils ont 18-19 ans, hein, c'est ça?
Voilà, les tâches quotidienne. Ouais. Effectivement, ils ont 18 ans, ils sortent du cocon familial et ils font la découverte de la vie. Donc,
Pardon Frédéric Girard, mais enfin, ce ne sont pas les premiers quand même à passer par cette étape-là. Ça fait des générations de jeunes qui quittent le nid familial pour aller faire les études, pour partir un peu à l'aventure. Pourquoi en 2026, c'est plus difficile pour les jeunes de vivre ça?
Parce que la société a également changé aussi, hein, les réseaux sociaux sont entrés en ligne de compte, voilà, aussi une forme de précarité, alors tout dépend des milieux bien sûr, mais si je prends l'exemple du campus Tarbes, nous on a 50% d'étudiants qui sont boursiers, et donc qui peuvent avoir aussi des difficultés financières au quotidien. Il faut donc mener de front les études, parfois un travail en tant que salarié. Ça met pas mal de pression en fait sur leur dos. Bon, effectivement, on a tous été étudiants. Ouais. Après, dans des conditions aussi différentes, je pense, quand on est étudiant dans une ville moyenne comme Tarbes, on est forcément amené. Là, je parlais 75% des étudiants, effectivement, viennent de l'extérieur. Ouais. Donc, ils sont loin quand même de leur famille. Alors, c'est vrai que moi, par exemple, j'étais à Paris, j'étais pas très loin. Je revenais dans la famille le soir. Enfin, j'étais pas livrée à moi-même. Et cet apprentissage-là, peut-être, peut effectivement être source d'un certain stress.
Ces jeunes-là, quand ils sont dans cette situation de stress, quel recours ils ont au fond? Est-ce qu'ils ont plus de difficultés aujourd'hui à tisser des liens d'amitié, pour que ça aille mieux, pour avoir des groupes d'amis, pour pas être seul? Vous parliez des réseaux sociaux par exemple. On peut imaginer que ces réseaux sociaux pourraient les aider justement.
Alors, ça dépend de la personnalité aussi de chacun. Pour certains, les réseaux sociaux, c'est le seul moyen finalement de rencontrer d'autres personnes. Mmh. Et dans ces cas-là, je pense notamment aux étudiants qui sont sur les jeux vidéo et qui jouent en réseau. Donc ça peut être tout à fait positif. par ailleurs.
Mais la rencontre n'est que virtuelle.
Mais la rencontre n'est que virtuelle et au quotidien pour aller bien, pour avoir une bonne santé mentale, ben il faut aussi bien sûr avoir un lien social, en général physique, sortir, vivre des expériences en temps réel et réel. Et puis faire du sport, voilà, avoir ce type d'activité variée. Et donc si on est uniquement centré sur son ordinateur, les réseaux sociaux, etc., bah, il manque quelque chose quand même dans le bien-être quotidien.
Ces difficultés-là que vous décrivez, elles touchent plus les jeunes filles ou les jeunes hommes, ou c'est kiff-kiff bourricot?
J'ai l'impression que c'est équivalent. Il n'y a pas tellement de différence entre les garçons et les filles. Après, il peut y avoir des différences en fonction des formations. Je vois par exemple à l'IUT, on a une formation métier du multimédia et de l'internet.
Ouais.
Et c'est vrai que le profil de ces étudiants est un peu plus particulier. Ils sont plus solitaires. Donc,
parce que plus sur les écrans.
Plus sur les écrans, ouais. Et souvent, bah, c'est des gamers, donc qui sont vraiment habitués à justement aux jeux en réseau, à être plutôt seuls. Alors que bon, moi, mais les étudiants de mon département, donc de commerce, sont plus ouverts. Il y a l'effet de bande, voilà, ils sortent assez facilement ensemble. Donc voilà, il peut y avoir aussi des différences de personnalité,
ouais.
Parce que c'est pas les mêmes personnalités qui font n'importe quelle étude en fait. Donc,
alors,
il y a un impact.
En tous les cas, on entend que la santé mentale, elle peut dépendre de facteurs sociologiques, voilà, qu'elle dépend aussi un peu de la formation et du caractère du jeune, mais il y a d'autres facteurs. Vous me disiez en préparant cette émission que les facteurs un peu nouveaux, ou en tous les cas qui posent vraiment un problème aujourd'hui, ce sont les dépendances à l'alcool, aux drogues, etc. Et ça, c'est un paramètre vraiment important dans l'état psychologique ou dans la santé mentale des jeunes étudiants aujourd'hui.
Alors ça entre en ligne de compte, mais c'est un élément parmi d'autres. Je dirais que le premier élément, c'est quand même l'isolement, voilà, l'éloignement familial, qui peut être une source de problèmes. Mais après, effectivement, il y a cette découverte de la vie étudiante, des soirées, des excès.
Donc c'est pas bien de rester tout seul, mais voilà, quand on sort, il faut faire attention.
Voilà, effectivement. Donc c'est bien d'avoir un équilibre, tout simplement faire du sport, sortir, mais peut-être ne pas consommer avec autant d'excès, notamment de l'alcool, hein, qui reste quand même la première source d'addiction chez les jeunes.
Avant le cannabis ?
Alors oui, avant le cannabis. Le cannabis vient ensuite. Après, c'est vrai qu'il se vulgarise de plus en plus. Bon, pour ce qui est des...
Ça veut dire quoi, pardon? Ça veut dire quoi, se vulgarise de plus en plus? Ça veut dire que c'est très accessible aujourd'hui,
oui.
C'est facile de se procurer du cannabis et que tout le monde peut en avoir quand il veut, c'est ça?
Oui, tout le monde peut en avoir quand il veut, dans les soirées, ça circule et c'est très... Voilà, c'est très simple. Donc la tentation, elle est là. Ils n'ont pas forcément cette idée de la mesure...
Oui.
Au démarrage, je parle de l'alcool, hein, bien évidemment, oui. Parce que on n'arrête pas de leur répéter que le cannabis a des effets délétères sur le cerveau.
Oui.
Jusqu'à l'âge de 25 ans, les connexions nerveuses ne sont pas terminées, donc le cannabis peut, enfin, détériore les neurones et peut dégénérer sur par exemple des crises de schizophrénie et des schizophrénies, une schizophrénie qui s'installe.
Irréversible donc.
Oui.
Et quand vous leur dites ça, ils vous croient, ils réagissent comment?
Ils nous regardent avec des yeux ronds et ils se regardent en se disant tiens, on prend des risques. Je pense.
Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'IUT et des enseignants de veiller à la santé mentale des étudiants et de les alerter sur les dangers potentiels qu'ils peuvent prendre en consommant avec excès de l'alcool, du cannabis ou autre chose ?
Alors, oui, ça fait partie de nos missions aussi d'accompagnant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je viens avec une casquette un peu particulière puisque je suis formatrice en premier secours en santé mentale et donc on a cette possibilité sur le campus de l'UTOP parce qu'on parle de l'UT mais c'est le campus de l'université technologie Tarbes Occitanie Pyrénées plus globalement de faire des formations auprès des étudiants justement pour leur apprendre à détecter chez les autres et aussi chez eux-mêmes hein, les premiers signes en fait d'un mal-être psychologique. Donc on forme des étudiants, on forme également des personnels, hein, ça peut être des personnels techniques certes ou des secrétaires qui sont en relation assez fréquente avec les étudiants, des directeurs d'études qui communiquent quotidiennement au sujet notamment de l'absentéisme. Donc, toutes ces personnes peuvent être elles-mêmes des relais d'information, de prévention et les premiers peut-être à évaluer chez un étudiant quelque chose qui ne va pas.
On marque une petite pause, Frédéric Gérard. On se retrouve dans un instant, puis vous allez nous expliquer justement quels sont les signaux qui manifestent que ça va pas bien pour un étudiant. À tout de suite.
Oui, merci Androse. Et cette pause, on va la marquer avec Kevin Mouvou, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve pour le journal régional.
Bonjour à tous. Adapter les pistes cyclables à la chaleur. La Haute-Garonne passe à l'expérimentation. Dès le 4 mai, des tests seront menés sur 12 sites avec le CERMA pour analyser les revêtements face aux fortes températures. L'objectif, limiter les îlots de chaleur en choisissant des matériaux plus réfléchissants. Une démarche clé, alors que le département pourrait gagner jusqu'à 2,5 degrés d'ici 2050. En Ariège, une friche qui produit désormais de l'énergie. Le pari solaire devient réalité. À Saint-Giron, 5200 panneaux photovoltaïques entrent en service sur l'ancien site industriel du Lédar. Porté par Total Energy, ce parc de 3 hectares, automatisé et piloté à distance, peut alimenter l'équivalent de 2700 habitants. Un projet qui a un coût à hauteur de 2,8 millions d'euros lancé il y a près de 7 ans, symbole maintenant de la reconversion du territoire vers une énergie plus durable. Et le rêve viking prend du retard à Toulouse. Le Drakkar Orkan ne traversera pas l'océan Atlantique en 2026 comme il était prévu. L'association Bata reporte le départ à mai 2027. En cause, des déménagements encore incomplets, un financement à finaliser et une équipe à former. Cette année supplémentaire servira aux essais en mer et à la préparation de l'expédition. Des étapes toutefois très importantes pour être prêt avant la traversée, celle d'une vie. Et quittons la mer pour la montagne. Prendre de la hauteur pour redécouvrir Lourdes avec le funiculaire du Pic du Gers qui reprend du service. Fermé pendant l'hiver, il rouvre ce vendredi 27 mars. En quelques minutes, il permet d'accéder à un panorama exceptionnel sur les Pyrénées, Lourdes et la vallée des Gaves. Accessible toutes les 20 minutes, ce site emblématique offre une vue à 360 degrés, jusqu'à Pau par temps clair. Les mathématiques sortent des salles de classe pour devenir un spectacle. Le printemps des mathématiques revient à Castanet-Tolosane les 27 et 28 mars. Conférences, spectacles et ateliers sont proposés au grand public pour découvrir les maths autrement. Organisé par l'association Les Maths en Seine, l'événement fête sa 10e édition et veut rendre cette discipline plus accessible, plus vivante. Clap de fin pour la transhumance hivernale dans le Lot. En vallée du Célé, 600 brebis s'apprêtent à quitter Espagnac, Sainte-Eulalie, après 3 mois de pâturage. Les bergers prennent la route le 28 mars, direction le plateau de Mille Vaches. Une pratique pastorale qui permet de valoriser les ressources locales et d'entretenir les paysages. Et enfin, dans les Hautes-Pyrénées, la Banque Alimentaire organise sa collecte de printemps vendredi et samedi. Des bénévoles seront présents dans les grandes surfaces de Tarbes et de Lourdes. Denrées alimentaires, produits d'hygiène sont les bienvenus. Chaque année, plus de 650 tonnes sont redistribuées aux plus précaires. L'appel à la générosité est lancé.
Merci, voilà, merci à Kevin Mouvou qui est étudiant et qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Retour de l'info sur notre antenne dans une demi-heure exactement à 13h avec le journal national et international. À suivre dans les prochaines minutes, direction les Pyrénées avec Anne Lasserre. Chaque semaine, elle sélectionne un auteur et nous lit un extrait d'un ouvrage qu'elle sélectionne cette semaine. Eh bien, elle recevra un auteur qui s'appelle André Chassin. Pour le moment, eh bien, on retrouve... Andrew. Rose Jankovic, toujours en compagnie de son invité.
Radio Présence à Montauban, 93.3.
Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Girard. Nous parlons de la santé mentale des étudiants à Tarbes et au-delà de Tarbes, puisque c'est un sujet qui concerne les jeunes partout en France et sûrement partout ailleurs. Vous nous parlez, Frédéric Girard, de cette formation premier secours en santé mentale qui est proposée pas seulement aux élèves, mais aussi aux formateurs au sein de l'UTOP. Ça veut dire qu'il y a des signaux qui sont repérables peut-être plus facilement que d'autres pour dire attention, cet étudiant-là, il va pas bien, on doit faire quelque chose pour lui. Quels sont ces signaux, les premiers signaux qui vous sautent aux yeux pour voir qu'un étudiant va pas bien?
Je dirais tous les changements qu'on peut observer chez cet étudiant. Donc ça peut être des changements de comportement. Un étudiant qui participait bien en classe, par exemple, et puis soudainement, il s'isole. Il a des difficultés à, enfin, il a plus d'appétit finalement à entrer en relation avec les autres dans la classe, avec les autres étudiants. Donc voilà, ça peut être un changement comportemental, ça peut être un changement d'humeur au niveau des émotions, voilà, plus.
Donc ça, c'est pas forcément lié à un produit addictif, mais ça peut être simplement le moral qui dégringole, quoi.
Ah oui, bien sûr. C'est pas la seule source, hein, ouais. L'addiction en général, elle vient pour compenser un problème d'anxiété.
C'est que ça va déjà pas bien,
voilà.
Avant, quoi.
C'est corrélé, ouais. Effectivement, ouais, aux maladies, aux troubles psychiques en général. Ouais. C'est-à-dire que dans tous les troubles, que ce soit la dépression, l'anxiété et troubles, voilà, dans la globalité, les addictions, drogues et alcool sont toujours très associées.
Donc c'est la dégringolade, ça peut aller assez vite, et vous êtes là pour dire, avec cette formation premier secours en santé mentale, pour dire attention, là on a repéré qu'il y a des choses qui vont pas, on va le repêcher. Comment vous faites, en fait, une fois que vous avez repéré qu'un jeune ne va pas bien, quel levier vous avez pour lui venir en aide, en fait? Et les personnes qui suivent cette formation premier secours santé mentale, quel levier elles ont aussi, ces personnes-là, une fois qu'elles l'ont détecté, ce jeune qui va pas bien, qu'est-ce qu'on fait?
Alors déjà, la première chose, c'est de leur donner quelques connaissances sur les différents troubles psychiques. Donc, on aborde les plus courants. Alors, nous, on est formateurs, avec mon collègue, donc on est deux sur l'UTOP. On est formateurs pour les adultes, donc c'est à partir de 18 ans, avec des troubles qui sont bien spécifiques, parce que sur la formation jeune, donc plutôt destinée aux collégiens et lycéens, il y a d'autres troubles qui peuvent être en jeu, comme par exemple les troubles du comportement alimentaire ou la scarification. Donc nous, on aborde les quatre grandes familles de troubles psychiques: les troubles de la dépression, les troubles psychotiques, les troubles anxieux et les addictions. Donc déjà, on leur donne un certain nombre de connaissances. On les met en situation aussi de jeu de rôle, où ils doivent... on crée des jeux de rôle, donc il y a forcément une personne qui va mal et une personne qui accompagne. Donc on leur apprend en fait un protocole d'action, ouais. qui aujourd'hui a été éprouvé par scientifiquement aussi, et ça fait partie du protocole de l'association Premier Secours en Santé Mentale. Donc en fait, ce sont des techniques d'approche. Comment on fait quand on perçoit qu'un camarade ne va pas bien, s'isole, devient plus irascible, par exemple?
Mais c'est pas simple. Hein.
Voilà, c'est pas simple. Mmh. Comment l'approcher et lui dire, tout en évitant, bien évidemment, de l'évaluer, de le juger, être dans une optique d'écoute active, bienveillante. Après, on lui apprend des techniques pour justement le rassurer, faire par exemple des comparaisons. Bien évidemment, il ne s'agit pas de dresser un diagnostic parce que on ne forme pas des médecins et nous ne sommes pas médecins.
Il peut être aidé, quoi, qu'il n'est pas seul.
Mais voilà, c'est de dire, tu te rends compte, peut-être avant, tu sortais, t'avais l'air toujours très, très enthousiaste, et du jour au lendemain, tu t'isoles, tu vois plus tes amis, tu fais plus de sport, et qu'est-ce qui ne va pas ? Donc, essayer d'enclencher, en fait, un dialogue. Rassurer, encourager à aller voir des professionnels de santé. Les professionnels de proximité, déjà, c'est l'infirmière de l'établissement qui redirige aussi sur la psychologue de l'établissement qui fait quelques heures de permanence donc sur le campus. Mais ça peut être aussi informé sur des ressources existantes, sur les types de thérapies, sur différents dispositifs qui sont à disposition des étudiants.
Et ça marche, enfin, vous avez vu déjà des résultats, des étudiants qui n'allaient pas bien, qui ont accepté d'être accompagnés et qui ont pu remonter la pente. Vous êtes témoin de ça aussi. Quels résultats vous avez sur cette formation ?
Alors, de ceux qui... Je ne peux pas savoir ceux qui vont voir d'autres étudiants. Ouais. Là, j'ai pas de
contrôle. En tous les cas, ils sont
repérables.
Les étudiants qui sont formés, qui peuvent aider les autres, on peut les repérer.
On les identifie, oui. Maintenant, ça reste une démarche très personnelle, en réalité. Et l'idée, c'est surtout de faire un soutien de proximité. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire... Je peux intervenir avec des étudiants que je ne connais pas. Alors, s'ils ont l'opportunité de le faire, pourquoi pas, ça peut être au cours d'une soirée ou autre. Mais nous, on se dit que plus il y a d'étudiants formés et plus au moins dans leur cercle vraiment intime, personnel, ils seront en capacité de repérer des petites choses qui ne vont pas dans leur entourage. Voilà. Rien que ça serait super.
Parmi nos auditeurs, il y a peut-être des parents qui s'apprêtent ou qui sont en train de chercher un lieu d'études pour leurs enfants pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents pour les rassurer, parce que là on dresse un tableau qui est un peu dramatique, mais tout n'est pas noir quand même. Il y a des belles choses aussi dans la vie étudiante, Dieu merci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents? Sans doute que les parents sont les premiers collaborateurs de la santé mentale de leurs enfants.
La question, c'est quand les enfants s'éloignent des parents, bien évidemment au quotidien, être attentif à son enfant, repérer justement tous ces changements.
Donc un enfant qui appelait beaucoup et qui d'un coup n'appelle plus fréquemment ses parents, là ça peut être un signal que peut-être ça va pas très bien à l'autre bout de la France.
Oui, ou dans l'intonation. Après il y a aussi des enfants qui savent bien mentir pour ne pas ne pas effrayer les parents, ne pas les inquiéter. Ça se sent quand même quand un enfant va bien, quand il fait part de ses projets, quand il s'exprime, s'il est enthousiaste, ça se sent en fait. Nous on met en place quand même un dispositif d'accompagnement assez rapproché, parce qu'on est très attentif à l'assiduité, et c'est un indicateur important de bien-être. Déjà un étudiant,
oui, un jeune qui vient plus en cours, c'est un jeune il y a quelque chose qui va pas, de toute façon.
Exactement. Et donc dans ces cas-là, on l'appelle, on essaye de comprendre la raison. Des fois il vient spontanément nous l'expliquer, mais je pense que c'est effectivement être attentif au changement. C'est le changement qui interpelle.
Merci beaucoup Frédéric Gérard. Peut-être qu'on peut terminer quand même en disant, je ne sais pas si vous l'avez ce chiffre, mais le nombre de personnes à l'IUT de Tarbes et à l'UTOP de manière plus large qui sont formées à cette formation premier secours en santé mentale, est-ce que... Est-ce que, d'abord, ça existe depuis combien de temps et combien de personnes ont pu se former?
Alors nous, ça fait 3 ans. Alors depuis, on a des étudiants qui sont partis, hein, parce que la formation dure 3 ans aussi. Donc, mais
ils y veilleront ailleurs.
Voilà, fait 3 sessions par an de 16 étudiants environ. Et par contre, il y a une bonne cinquantaine de personnels formés au premier secours en santé mentale à l'UTOP, aussi bien à l'école d'ingénieurs que à l'IUT.
Voilà, bah merci beaucoup Frédéric Girard. C'était vraiment très important d'aborder cette question de la santé mentale de nos jeunes étudiants. Ils sont quand même quelques-uns à Tarbes et c'est important, voilà, de veiller à cette santé mentale. C'est ce que vous faites à travers donc cette formation premier secours en santé mentale déployée à l'UIT de Tarbes et à l'UTOP. Merci beaucoup Frédéric Girard.
Avec plaisir, merci de m'avoir donné cette opportunité.
Merci à Androse Jankovic qui a réalisé cet entretien que vous pourrez réécouter sur radioprésence.com. Allez, dans un instant, direction les Pyrénées, on va prendre un peu d'altitude avec André Galicia. C'est l'auteur qu'a sélectionné Anne Lasserre dans le regard des écrivains sur les Pyrénées. Ça sera juste après Eddie Mitchell qui nous accompagne à 12h40.
Ça commence comme dans un film noir. Un jeune couple l'histoire. Ils veulent ficher et rechercher. La vie les a changés en marginaux blessés. En cavale, changeant chaque soir.
Avec nous dans un peu plus d'un quart d'heure, c'est l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican. Pour le moment, c'est Anne Lasserre et Philippe Subercase pour le regard des écrivains sur les Pyrénées.
Radio Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Vous avez vu, la machine à remonter le temps a été révisée parce que vous nous l'avez amené, on en prend soin.
Et oui, et heureusement que vous l'avez bien révisé, Philippe.
Parce que nous allons reprendre donc notre bonne vieille machine à remonter le temps aujourd'hui, puisque vous nous amenez dans les Hautes-Pyrénées, mais en compagnie de Lucien Brier.
Oui, grâce à un magnifique album récemment publié par les éditions de la Ramonda et consacré donc à Lucien Brier.
Alors plus précisément, la machine nous amène 122 ans en arrière. Nous sommes au début du mois d'août 1897.
Et Lucien Brier, le guide Henri Passé et l'instituteur de Gèdre, qui a pour nom Rondou, se prépare à explorer la grotte de Churugue, qui s'ouvre comme une bouche de four au bas du mont Héran.
Le nom de Lucien Brier est surtout associé à l'Aragon, car il n'a cessé de parcourir et de photographier le Haut-Aragon entre 1904 et 1911.
Mais il a parcouru également bien des versants français et l'ouvrage rassemble des articles évoquant le pic Badet, le pic Long, la vallée de Cambiel, les lapias des Saradés par exemple.
Et aujourd'hui, il s'intéresse à la grotte de Churugue.
Grotte mystérieuse.
Grotte mystérieuse. Alors là, ça m'intéresse encore mieux. On vous écoute, Anna.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Les éditions de la Ramonda ont réuni les écrits du pyrénéiste Lucien Brier dans un très beau livre qui s'intitule « Lucien Brier aux Pyrénées, voyage sur le versant français 1892-1906 ». Lucien Brier est né en 1860 et dès les années 1890, il se lance non seulement dans l'ascension des Pyrénées, mais aussi dans l'escalade avec Henri Brulle, de 6 ans son aîné, et considéré comme le fondateur du pyrénéisme de difficulté. Mais aujourd'hui, avec Lucien Brier, nous partons à la découverte d'une caverne mystérieuse, la grotte de Churugue. Non loin de Gavarni, écrit Lucien Brier, et au seuil de la vallée d'Estobé, qui conduit à la brèche de Tucurouille, par laquelle on entreprend généralement l'ascension du Mont Perdu, existe une caverne appelée Grotte de Churugue. Inscrite sur la carte d'état-major, cette caverne, que le guide Johann se contente de mentionner, s'ouvre comme une bouche de four au bas de la haute muraille de calcaire blanchâtre qui soutient le mont Héran. Un talus permet d'y accéder sans peine. Je fus surpris d'apprendre un jour chez Lacoste Passé, à propos de la grotte de Churugue, que jamais personne n'en avait atteint l'extrémité. C'était une galerie profonde, interminable, où un audacieux aurait cheminé sans succès 2 heures durant. Des bruits étranges se répercutaient. Il fallait ramper par places, on entrevoyait des abîmes. Un souffle violent éteignait les lumières. En 1842, le duc de Montpensier s'y était rendu et une dame de sa suite en avait rapporté une pleurésie dont elle était morte de retour à Tarbes. Puis, il y avait une légende qui faisait aboutir la grotte tantôt dans les pays des nains, tantôt, et cela d'une façon beaucoup plus admissible, vers le cirque de Pinède, sur le versant espagnol. On me raconta, pour finir, l'histoire du bœuf à Cumia. Au temps jadis, cet animal s'était fourvoyé dans la grotte et tout le monde le croyait perdu. Personne n'osant s'aventurer sur ses traces. Lorsqu'il se retrouva de lui-même, au bout d'une huitaine, pâturant le long du torrent, son maître s'aperçut que ses bouses renfermaient de petites graines qui se semèrent et qui furent l'origine, paraît-il, de la culture du millet dans le canton de Barège, culture florissante autrefois, mais actuellement abandonnée. Le mystère qui se dégageait de cet amalgame de racontars éveilla mon amour propre et je résolus d'explorer la grotte de Churugue qui ne me semblait guère avoir été jusqu'ici l'objet d'une étude méthodique et sérieuse. S'il allait exister un souterrain analogue à la grotte de Saint-Martin d'Ardèche, le courant d'air venait probablement d'un avène, d'une sortie quelconque. Quant au murmure perçu, ne trahissait-il pas les plaintes d'une eau secrète franchissant un gourd ? Mon imagination évoqua les merveilles de Dargilan et de Padirac. Nous convînmes, le guide Henri Soulet et moi, de passer une nuit au lieu dit de Rivière Grande, le plus près possible de la grotte, dans une grange dont nous connaissions le propriétaire. Il était indispensable de nous trouver de bonne heure à l'entrée de la caverne si nous voulions avoir toute la journée pour en parcourir les arcanes. J'achetai 2 paquets de bougies, je me procurai un décamètre, une corde et de la ficelle. L'instituteur de Gèdre, mon ami Rondou, offrit de m'accompagner et comme je possédais un carnet décliné, il fut entendu que nous dresserions le plan au fur et à mesure, numérotant, sondant les puits où nous nous réservions de descendre ultérieurement, car nous tenions à jeter un coup d'œil sur l'ensemble avant de nous occuper des difficultés et autres détails. Le touriste, visant la grotte de Churugue, peut, au départ de Gèdre, opter entre 2 itinéraires, celui du Coumeli ou celui du Passé des Gloriettes. Je choisis le chemin de Héas, qui nous ménageait l'avantage d'être moins pénible par la chaleur. Et le 3 août 1897, vers 3h de l'après-midi, en compagnie de Soulet et de son invariable charge, je mis le cap sur Rivière Grande. Rondou avait promis de nous rejoindre le lendemain au lever du soleil. Avec un soupir de soulagement, nous sautâmes par-dessus la clôture grossière qui limitait l'herbage et envahîmes la grange, dans le fenil de laquelle je m'installai, au milieu de capes éparpillées, notre hôte, un ourcadet de Gèdre dessus, vaquant dans les environs à ses occupations bucoliques. Du fumier s'amassait contre le roc. Le sentier se poursuivait, doublait le promontoire. En travers de l'eau, un alignement de pierres plates, distancé à peu près, nous livrait au besoin l'autre bord. La baie de la porte découpait un pan du mont Téran et la grotte de Churuc avait l'air d'une lucarne de cachot percée dans une fortification grandiose. Lucien Brier, le guide Henri Soulet et l'instituteur de Gèdre pénètrent dans la grotte dont l'entrée est large de 4,40 m mais ne mesure qu'un mètre de hauteur. Cette expédition leur permet de conclure que la grotte de Churugue ne vaut pas le déplacement et que le bœuf à Cumia n'avait pu se faufiler par la galerie à moins d'avoir eu la ressource de la formule magique « Sésame, ouvre-toi ». Le passage retenu est extrait d'un ouvrage publié en 2017, donc tout récemment, par les éditions de la Ramonda, ouvrage dans lequel sont rassemblés des articles écrits par Lucien Brier entre 1892 et 1906. L'ouvrage s'intitule « Lucien Brier aux Pyrénées, voyage sur le versant français 1892-1906 ». Les articles et les photographies ont été rassemblés par André Galicia.
Et voilà une exploration dont le résultat est un peu décevant, car la grotte de Churugue n'a vraiment rien de particulier malgré tous les récits colportés. On était déjà à l'époque des fake news.
Exactement, Philippe. Et c'est pour cela que Brier conclut que cette promenade met fin à la réputation surfaite de cette grotte et à son mystère.
Les instruments d'exploration sont rudimentaires, des bougies, une corde, une ficelle, mais il y a quand même un décamètre.
Mais quand Rondou arrive, il s'aperçoit qu'il a oublié la lanterne. Alors, donc il ne reste plus que les bougies,
oh
Philippe.
Cela ne les empêche pas s'aventurer quand même dans les boyaux en étant obligés de marcher à 4 pattes.
Oui, et ils passent par un trou de 50 cm de hauteur pour parvenir dans une salle de 3,50 m de haut, de 8,40 m de long et de 2,30 m de large, parce qu'ils avaient apporté donc le décamètre pour mesurer.
50 cm, je ne sais pas si je passe.
Oui.
Alors, ils n'étaient pas très épais. Ils ne font pas une découverte extraordinaire en explorant cette grotte, mais ils sont persuadés que personne ne l'a encore explorée. Ils donc sont les premiers.
Ils calculent que la grotte de Churug a dans les 70 mètres de profondeur. C'est une belle idée, Philippe, que les éditions de la Ramonda ont eu de rassembler et publier tous ces articles, car Brié avait projeté de les publier, il voulait publier le récit de ses ascensions et de ses expéditions.
Voilà, on a quand même de beaux ouvrages quand même, qui nous font revivre un peu tout ça, et puis vous les mettez à l'honneur, et je crois que c'est aussi notre patrimoine qui à travers ces livres, revit.
Et revit.
Et dont on garde aussi une trace.
Voilà, et sont un précieux témoignage, effectivement, de temps qui n'existe plus.
La semaine prochaine, nous allons, grâce à Emmanuel Leroy-Ladurie, nous irons en Haute-Ariège, à Montaillou. Il faudra donc réviser également la machine, car nous partons pour le 14e siècle.
Oui.
Oula ! Donc là, il me faut une semaine pour bien réviser, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se perde dans le temps. 14e siècle, on y est.
Oh, si, on y est allé. Je crois que c'est la première fois, Philippe.
On va aussi
je
loin
pense.
Dans le
oui,
temps.
On était allé au 16e siècle, mais pas au 14e siècle.
Bon, on va voir si elle est performante et si elle nous y amène.
C'est le moyen de la tester.
Exactement. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
You.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Léon XIV renouvelle l'engagement de l'Église catholique pour suivre le chemin œcuménique avec l'Église anglicane.